c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Cette semaine, nous avons choisi de vous parler de l'Amérique latine, évidemment. On nous parle d'une mosaïque de cultures. Et nous allons aborder un problème au Nicaragua. Et ensuite, nous allons parler aussi de Venezuela, du Brésil. Et nous allons diffuser un reportage envoyé par Radio Nationale d'Espagne, gardé dans les archives d'OPEAL, sur un grand écrivain argentin, Ernesto Sabato. Je laisse la parole à Béatrix.
Oui, comme dit Eduardo, l'Amérique latine est un immense mosaïque de cultures. Parlant des habitants de l'Amérique latine, Simon Bolivar disait qu'il ne connaissait pas de situation plus extraordinaire ni plus complexe. Nous ne sommes ni des Européens, ni des Indiens, mais appartenons à une espèce située entre les indigènes et les Espagnols. C'est bien en cela que réside l'originalité et la complexité de cette Amérique, de sa culture aussi, née de l'union et non de l'assimilation. Les cultures propres aux différents groupes qui habitent ce continent, loin de se métisser, de s'assimiler, se sont opposées. Elles ont juxtaposé ce que l'on estimait supérieur à ce que l'on tenait pour intérieur. C'est ce type de relation qu'Européens et Américains allaient conserver. Rapport de conquistador à conquis, de colonisateur à colonisé. L'Amérique, ce sont à la fois les Indiens et les conquistadors, les libérateurs combattant pour mettre fin à la conquête, les civilisateurs qui voulaient passer outre aux expériences locales. La culture latino-américaine s'est finalement imposée aux cultures prétendument supérieures qui avaient voulu s'imposer à elle ou qu'elle avait accepté librement. Chacune de ces cultures s'est fondue dans le creuset. Identité culturelle complexe et par là même originale. Expérience qui constitue un rapport original à l'histoire et à la culture humaine dans tout le sens de ce terme. C'est Leopoldo Zea qui est essayiste et philosophe mexicain.
Donc oui, c'est Leopoldo Zea, c'est un Mexicain donc, qui parle de la mosaïque des cultures. Mais nous avons aussi l'identité multiple, n'est-ce pas ?
Oui, unité ou diversité de l'Amérique. Du Rio Grande à la Terre de Feu, les écarts et les spécificités régionales et nationales sautaient aux yeux des voyageurs européens qui différenciaient cultures régionales, andines, caraïbes, atlantiques, des cultures nationales. L'Uruguay n'est pas l'Argentine, malgré de fortes ressemblances, et des cultures provinciales. Loin d'être définitivement scellées, l'identité latino-américaine apparaissait en devenir. Pour évoquer les tiraillements du syncrétisme culturel, l'historien Miguel León Portilla propose le terme néopantlismo, tiré du mot nahué, népantia, au milieu d'eux. Entre deux ou plusieurs races et cultures, l'Amérique indo-latine a construit des cultures hybrides qui cristallisent la totalité des influences donatrices. L'Amérique latine, un ensemble pluriethnique. Les cultures paysannes, indiennes, métisses ou noires, longtemps oubliées ou mésestimées, commençaient à peine à émerger dans la conscience créole. Durant le XIXe siècle, existaient des passerelles entre les catégories raciales. Mais encore au début du XXe siècle, l'image du noir et de l'indien reste largement défavorisée. Et c'est écrit par Pierre Vessière, l'Amérique latine de 1890 à nos jours. Il est professeur d'histoire à l'Université de Toulouse.
Voilà, c'est un livre que nous a offert gentiment M. Casoran, qui parle aussi, évidemment d'une période longue de l'histoire de l'Amérique latine. Et parfois je me pose en écoutant cette identité... est-ce que je suis un latino-américain, un indien, ou un mélange aussi avec, pourquoi pas, avec des mapuches, des indiens du Chili?
Na yampini na naira, masumata kilurut asinyani. Humana yampini na naira, masumata kilurut asinyani. Ay 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 fueguito, koli pancarita. Ay 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 fueguito, koli pancarita. Marajeu sumai milita, makutin pis kitirus munkati, sumat sumat sarna kasinya, antasimai kolini nanaira. Sumat sumat sarna kasinya, antasimai kolini nanaira. Ay 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 fuegito, koli pankarita. Ay, 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 fueguito, toli pancarita.
Folklore indien, en fait, avec des flûtes et des bumbous. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons aborder un autre sujet délicat aussi, au Nicaragua, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, il s'agit du régime de Daniel Ortega qui poursuit sa croisade contre l'Église catholique. Rolando Alvarez, évêque de Matagalpa, a été arrêté en août 2022. Ses homélies faisaient mouche. Ces politiciens ne sont pas ceux dont nous avons besoin. Allusion claire au régime. L'évêque a comparu le 10 janvier devant un tribunal de la capitale en audience à huis clos. Il s'est vu signifier son procès pour conspiration et propagation de fausses nouvelles. Les atteintes contre l'Église catholique constituent le dernier maillon de la chaîne répressive du régime de Daniel Ortega, ancien guérillero sandiniste devenu chef d'État. Depuis la révolte de 2018 qui réclamait son départ, réprimé dans le sang, il s'est attaché à poursuivre toute forme d'opposition, contraignant à l'exil des dizaines de milliers de personnes. 230 prisonniers politiques ont été recensés par les organismes des droits humains. Daniel Ortega a toujours affiché une position anticléricale, sauf quand cela pouvait servir ses intérêts électoraux. La révolte inédite de 2018 a marqué un nouveau tournant dans sa relation avec l'Église, qui avait demandé des élections anticipées. Une injure pour Ortega, qui y a vu une tentative de coup d'État. Depuis lors, l'Église a gardé un silence quasi absolu.
Oui, on peut dire aussi que si la stratégie du gouvernement est d'étouffer la contestation, selon les manifestants, eux se disent plus déterminés que jamais. On ira jusqu'à Lima, assure des collectifs citoyens et des organisations paysannes qui organisent pour une grande marche vers la capitale. Voilà donc ce qu'on peut dire de cette situation au Nicaragua, vraiment très mauvaise. Mais nous allons passer à un autre pays près de l'Amérique centrale, c'est le Venezuela.
Le président Nicolas Maduro retrouve de l'intérêt aux yeux des États-Unis qui lorgnent son pétrole. La guerre en Ukraine a poussé les États-Unis à reconsidérer ses relations avec le Venezuela, gros producteur de pétrole. Le pays possède en effet 20% des réserves mondiales, d'où la main tendue par Joe Biden à Caracas. Un premier tanker de 500 000 barils a quitté le Venezuela le 12 janvier pour livrer une raffinerie du Mississippi. Miser sur Maduro pourrait se révéler un pari risqué, d'abord parce que le brut vénézuélien est lourd et son raffinage laborieux. Ensuite, il n'est pas garanti que Maduro engage les négociations avec l'opposition comme il l'avait promis. Se risquera-t-il à organiser une élection présidentielle qui pourrait perdre ? Selon la Constitution, la prochaine élection devrait se tenir en 2024. L'inflation à 150% sur un an et la Banque centrale manque de fonds pour soutenir le Bolivar. Afin de couper l'herbe sous les pieds d'une opposition qui peine à s'unifier, le régime pourrait être tenté de relever le défi électoral avant que l'économie n'éclate complètement.
Voilà, ça vient de...
La revue L'Économiste de Londres.
Économiste, ça, c'est un point de vue depuis Londres, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'avec la richesse du pétrole de Venezuela, les États-Unis sont bien intéressés suite à la guerre en Ukraine.
Nadie sabe a dónde va.
Vous êtes à l'écoute, j'insiste là-dessus, l'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons aborder aussi un sujet sur le Brésil.
Le pays entame une longue bataille pour sa stabilité. Prévisible, les événements de Brasilia ont bénéficié de nombreuses connivences sur place. Le président Lula devra sécuriser la situation avant de pouvoir mener ses réformes. Si le gouvernement du nouveau président du Brésil pensait que son investiture le 1er janvier mettrait fin aux protestations des partisans de Jair Bolsonaro, les événements du 8 janvier ont montré qu'il s'agissait d'un vœu pieux. Des milliers de bolsonaristes ont pris d'assaut les bâtiments modernistes de la capitale Brasilia. Aucune preuve de complicité des forces de l'ordre n'a encore été apportée, mais elles ont été à tout le moins passives. Les demandes de renfort du chef de la police du Sénat au gouverneur du district fédéral de Brasilia, un proche de Bolsonaro, ont été ignorées pendant des heures. Depuis la Floride, l'ex-président n'a toujours pas reconnu sa défaite. Lula a promis de poursuivre les manifestants et toute personne impliquée dans les événements du 8 janvier. Il faudra aussi empêcher les futures tentatives des bolsonaristes de semer le chaos. Après des années de tumulte, les Brésiliens recherchent désespérément la stabilité. Ils devront attendre encore quelque temps.
Oui, mais il faudrait dire aussi que déjà Lula a pris quelques mesures au sein de l'armée. Il a fait un coup de balai, n'est-ce pas ?
Oui, le vendredi 20 janvier, le président brésilien a reçu au palais présidentiel les principaux commandants de l'armée nationale. La rencontre, organisée après le saccage des institutions de Brasilia, dont les militaires sont accusés d'être en partie responsables, était de plus attendue. Sous le feu des critiques, le général Julio de Arruda, l'amiral Marcos Sampaio et le lieutenant Marcelo Canitz ont affiché de mines graves. L'ambiance n'était pourtant pas au règlement de compte, mais plutôt à la réconciliation. Les révélations compromettantes se sont pourtant accumulées sur le rôle trouble de l'armée dans la mise à sac du palais de Brasilia. En cause la passivité, voire la connivence de l'armée face au campement d'extrême droite installé devant les casernes. Lula a entamé la démilitarisation des institutions de Brasilia. 85 soldats proches du bolsonarisme travaillant à la présidence ont été démis de leurs fonctions. Mais certains au sein de son parti des travailleurs trouvent le coup de balai trop modeste et appellent à des purges d'ampleur. Si les officiers en activité restent muets, plusieurs soldats de la réserve manifestent leur indignation face à la purge. Pragmatique, le chef de l'État aurait décidé de fermer les yeux provisoirement.
Oui, et il a conservé son ministre de la Défense aussi, qui était quelqu'un de droite. C'est pour cela qu'ils ne sont pas très contents, ceux qui sont des partisans du nouveau gouvernement de Lula. Mais souvent, je dis, le Brésil, il y a la musique.
Meu São João, você mesmo que mandou yuyu. Olha eu fazer fogueira pra me brincar com meu amor. Eu fazer amor, eu digo, meu São João, você mesmo que mandou yuyu, eu fazer fogueira pra mim brincar com meu amor. Olha eu fazer fogueira pra mim brincar com meu amor. Eu virei um canarinho aí no galho da laranjeira, no coração da morena eu virei fogueira. Morena, olha eu virei fogueiro. Digo, meu São João, você mesmo que mandou yuyu, eu fazer amor. Eu fazer fogueira pra me brincar com meu amor. Águas que saem dos olhos se perdem em qualquer lugar. Se o amor é um brinquedo, é, coração diz que é brincar. Se o amor é um brinquedo, coração diz que é brincar. Eu digo, meu São João, você mesmo que mandou ioiô, eu fazer fogueira pra me brincar com meu amor. Olha, eu fazer fogueira pra me brincar com meu amor. Simbora!
Voilà la musique de l'Amérique latine. Et nous allons partager un reportage envoyé par Radio Nationale d'Espagne, gardé dans les archives de d'Opéal, sur un grand écrivain argentin, Ernesto Sabato, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Tunnel, salué par, comme un chef d'œuvre par Albert Camus, Graham Greene et Thomas Mann. N'oublions pas, c'est un reportage en español.
En España, al escritor argentino Ernesto Sabato.
He venido a España probablemente por última vez. Realmente soy recibido con todo el afecto, la devoción con que este pueblo admirable me ha tratado siempre.
La frase «todo tiempo pasado fue mejor» no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez.
Todos ustedes comparten conmigo el profundo dolor que siento por nuestra patria. En mi país conocí a la gente que más me ha amado y alentado. Gente generosa, sensible, llena de talentos y posibilidades. A ellos les pertenezco en medio de esta tragedia que vivimos como a lo más sagrado.
Esta voz, desgastada por el tiempo, pertenece a una gloria de la literatura que, al parecer, ha venido a despedirse de España cumpliendo una invitación del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que le entregó la medalla de oro de esta entidad.
Podrán preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen, y sobre todo a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran, me importa un bledo. Hace rato que me importan un bledo.
De la imaginación de este hombre, el argentino Ernesto Sabato, nació una novela inigualable, El túnel. Una reflexión cargada de fe de las intensas preocupaciones que el autor ha sentido siempre por los problemas existenciales del hombre moderno.
Supongan pues que publico esta historia por vanidad. Al fin de cuentas, estoy hecho de carne, huesos, pelo y uñas como cualquier otro hombre, y me parecería muy injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales.
Argentina ha caído de la situación de país rico, riquísimo, que yo en mi juventud conocí como la séptima potencia del mundo. A ser hoy una nación arrasada por los explotadores y los corruptos.
Que el mundo es horrible es una verdad que no necesita demostración. Bastaría un hecho para probarlo. En todo caso, en un campo de concentración,
el mundo nos reclama. Reclama ser expresado por el martirio de algunos. No se pierde en el tumulto y en el caos, sino que pueda alcanzar el corazón de otros hombres para repararlos y salvarlos. Dijo Camus. Mi gran amigo Camus, Indudablemente cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podrá hacerlo. Pero su tarea es quizá mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga, no se deshaga. Heredera de una historia corrupta en la que se mezclan las revoluciones fracasadas, las técnicas enloquecidas, los dioses muertos y las ideologías extenuadas en las que poderes mediocres que pueden destruirlo todo no saben convencer, en que la inteligencia se humilla hasta ponerse al servicio del odio y la opresión. Es imposible no corroborar a diarios estas palabras ante la visión de las antiguas torres destruidas. La vida se ha vuelto una inmensa cuesta en alto, y aunque la fuerza del espíritu nos impulsa a seguir luchando, hay días en que el desaliento nos hace dudar si seremos capaces de rescatar al mundo de tanto desamparo.
Hasta un hombre, real o simbólico, como Cristo, pronunció palabras sugeridas por la vanidad o al menos por la soberbia. ¿Qué decir de León Bloy, que se defendía de la acusación de soberbia argumentando que se había basado
en la etapa final de una cultura y un estilo de vida que durante siglos dio a los hombres amparo y orientación? Hemos recorrido hasta el abismo las sendas del individualismo. Veinte, treinta empresas, como un salvaje animal totalitario, tienen el dominio del planeta en sus garras. Déspotas invisibles controlan con sus órdenes la dictadura del hambre, la que ya no respeta ideologías ni banderas. Ya la gente tiene temor que por tomar decisiones que hagan más humana su vida, pierdan el trabajo, sean expulsados y pasan a pertenecer a esas multitudes que corren acongojadas en busca de un empleo que les impida caer en la miseria. Son los excluidos, una categoría nueva que habla tanto de la explosión demográfica como de la incapacidad de esta economía, en cuyos balances no cuentan la vida de millones de hombres y mujeres que así viven y mueren en la peor miseria.
Voilà, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrix qui nous a livré des infos sur l'Amérique latine. Et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.